Truelle et Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Truelle et Sac à dos vous proposent des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Nous voici dans Truelle et Sac à dos, et pour aujourd'hui, eh bien, je suis sur Vannes, et nous sommes donc dans la tour du Connétable, et je vais laisser Julie Brofkowski, j'espère que je l'ai bien prononcé, se présenter et nous raconter un petit peu son parcours au niveau universitaire, professionnel. Racontez-nous tout, Julie, qui êtes-vous ?
Alors bonjour Céline, donc, je m'appelle Julie Brofkowski, à la base je suis archéologue. En fait, j'ai fait donc des études d'archéologie. Je me suis spécialisée dans la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, je suis partie 6 ans là-bas. Et en revenant en France en 2014, je ne trouvais pas de travail en tant qu'archéologue. Donc, j'ai fait une formation en médiation en archéologie avec Archéomédia. Et depuis, je travaille en médiation en archéologie. Et là, depuis 2 ans, je commence plus à faire de la médiation du patrimoine. C'est-à-dire que je travaille également dans des musées des beaux-arts, ou dans des sites médiévaux antiques.
Alors, le départ Nouvelle-Zélande, Australie, c'est vraiment parce que ça te plaisait d'aller travailler là-bas? C'était une envie de découvrir cette civilisation-là? Enfin, ces civilisations, d'ailleurs, on pourrait peut-être dire. Comment ça s'est fait? Je suis un peu curieuse de ce truc-là.
Alors, en fait, c'est parce que j'ai commencé à faire une maîtrise, parce que c'était encore maîtrise à l'époque, hein, il y a longtemps, en gallo-romain. Et ça s'est pas terminé, donc j'ai décidé, en fait, j'ai toujours rêvé de vivre en Nouvelle-Zélande, donc j'ai décidé de faire un master 2 à la Sorbonne, sur l'Océanie, donc sur la Nouvelle-Zélande, sur les Maoris, et ensuite pour faire mon doctorat, il fallait que je parte sur le terrain, donc je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 4 ans pour faire mon doctorat.
Et alors pourquoi t'es pas restée là-bas?
Parce que, alors honnêtement, parce que j'avais plus d'argent, parce que ça coûte très cher en fait les études dans tous les pays anglo-saxons et anglophones. Donc je n'avais plus d'argent, donc je suis partie 2 ans en Australie pour refaire un peu de sous.
Oui, c'est ça.
Et puis après, pour des raisons personnelles, professionnelles, je suis revenue en France. Et là, il a fallu que je me renouvelle en fait, que je trouve un autre moyen de continuer mon travail. Et il faut aussi savoir que même quand j'étais archéologue, quand j'étais sur les chantiers, c'est toujours moi qu'on envoyait parler au fait au public, au scolaire. J'ai toujours aimé ça. Donc c'est pour ça que la médiation.
C'est ça qu'on cherche, qui s'y colle. Oui. Où on fait l'autruche et genre c'est pas moi.
Mais c'est ça. Donc pour moi, c'était naturel en fait. Ça me paraissait naturel de faire la médiation parce que c'est l'archéologie, c'est de la recherche, c'est de la fouille sur le terrain, mais c'est aussi de la médiation. Ce sont 3 parties en fait qui sont complémentaires et qui sont indispensables pour. Enfin, je vois ça comme ça en fait.
Oui. Alors toi, donc t'es revenu. Peut-être que tu auras l'occasion d'y retourner.
Peut-être. Que ça va dépendre
de mes opportunités aussi, peut-être du boulot qui peuvent arriver, quoi. Et donc, pourquoi aujourd'hui, donc moi, ce que j'ai eu, parce que ça fait longtemps, c'est ce qu'on disait en aparté avant de commencer, qu'on s'est pas vu. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es en indépendante.
Oui, j'ai créé ma micro-entreprise en 2016. Non, 2017. J'ai créé ma micro-entreprise en 2017. D'abord pour faire juste des prestations en fait, de médiation pour différentes structures. Et ensuite, j'ai commencé à créer donc, des trames de visite, des ateliers. J'ai fait également des traductions en anglais pour des cartels de musées, différents musées.
Donc tu pars en Australie, tu passes le doctorat et donc, le boulot plutôt compliqué à trouver dans la filière concernée, on va dire, sur place, quoi. Donc, c'était plus simple de revenir en France pour retourner sur cette partie archéo et peut-être médiation. Et donc, je suppose que tu as eu peut-être d'autres boulots avant. Et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de créer ta propre entreprise, en fait, de te mettre à ton compte?
Alors, c'était vraiment pour avoir un revenu complémentaire, parce que en médiation, on a beaucoup de contrats saisonniers. Et donc, moi, travailler 2-6 mois par an, ça ne m'intéressait pas parce que je suis hyper active. Donc, j'avais besoin, en fait, pouvoir travailler toute l'année. Donc, c'est vraiment c'était la première raison, c'était vraiment des compléments de revenus.
C'était vraiment celle-là, quoi. Ouais. C'était pas forcément dû, justement, à « je vais être autonome sur ce que je fais, avoir la main » ou...
Non, parce que j'aime les deux, en fait, parce que j'aime vraiment travailler en équipe. Donc, c'est vrai que travailler, être toute seule tout le temps en autonomie, c'est compliqué pour moi, parce que j'ai besoin de voir des gens. J'ai besoin d'échanger.
C'est ce que tu disais, justement, j'ai besoin de parler aux gens.
C'est ça.
De raconter des trucs.
Donc, vraiment, c'était ça, en fait, pour moi. C'était vraiment le complément de revenu et la possibilité aussi de faire d'autres choses. Parce que, par exemple, les traductions de cartels de musées, je n'aurais pas pu les faire si je n'avais pas eu ma micro-entreprise.
Ah oui, parce que forcément, tu es bilingue.
Oui.
Voire même peut-être plus
vieux. Alors, je parle un peu maori, ouais. Mais ça n'est pas utile en France.
On ne sait pas. Il peut y avoir une exposition qui, tout à coup, te tombe dessus. Genre, c'est elle qu'il nous faut. Et donc après, en termes, donc, tu t'es mis à ton compte. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme projet en cours et peut-être à venir aussi, qui sont sur le feu?
Alors, j'ai différents projets. Je ne peux pas parler de tout parce que c'est en cours. C'est et qu'il y a des contrats qui sont signés, ouais. Donc avec voilà, des confidentialités.
Je reviendrai.
Mais c'est ça.
Actuellement, justement, donc, qu'est-ce que tu fais?
Alors, je suis médiatrice du patrimoine pour l'agglomération de Vannes. Je fais, en fait, ce sont des contrats.
Et ça, c'est ce que j'allais demander. Alors, est-ce que tu es en prestataire, justement, en tant qu'entrepreneuse, ou est-ce que tu as un contrat? Donc, c'est de la vacation
J'ai des contrats qui se suivent. Voilà, donc je garde toujours mon micro-entreprise pour les compléments.
C'est ça, disais, quoi, qui te permet aussi, toi, de continuer de te faire financer par ailleurs, ouais. Et d'avoir ces deux boulots à cheval, quoi.
Et faire des choses, en plus, qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que les missions que je fais pour ma micro-entreprise n'ont rien à voir avec les missions que je fais quand je suis en sous-contrat, que ce soit pour des associations ou des mairies, ou peu importe.
Oui, c'est-à-dire que les missions où tu es sous contrat, ça va être plutôt ça, en l'occurrence, c'est la mairie de Vannes ou l'agglo de Vannes?
Il y a les deux, en fait. J'ai fait les deux depuis quelques mois, j'enchaîne les contrats avec les deux.
Et c'est ce que tu disais, quoi, là où tu vas toucher peut-être un peu plus du patrimoine plus large, quoi, de l'Antiquité à nos jours.
Oui, c'est ça, c'est que là, et c'est pas forcément que sur des sites archéologiques. Donc c'est vrai que c'est de la médiation du patrimoine, c'est plus de la médiation en archéologie pure.
Et avec l'entreprise, alors qu'est-ce que... donc, l'application, elle est dans le cadre de ton entreprise?
De ma micro-entreprise, oui.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as d'autre parce que je suppose qu'il y a ce gros projet-là, mais on a toujours d'autres petites choses qui traînent, sur lesquelles on bosse toujours, ou des choses en retard, qu'on aimerait finir, ou qui seraient à venir.
Mais je regarde toujours s'il y a des traductions, en fait, pour les musées, voilà, s'il y a des appels d'offres, etc.
De publications.
Oui, ouais, la traduction, vraiment, parce que vraiment, comme je suis bilingue...
Matière-là, c'est ça, le vocabulaire.
Oui, j'ai le vocabulaire scientifique, donc c'est vrai que je regarde toujours par rapport à ça si je peux obtenir des petites missions. Et après, j'ai des idées que je développe. Il y a aussi la construction aussi d'outils pédagogiques.
Ouais.
Donc ça dépend les commandes, surtout des simulateurs de fouilles, par exemple. C'est surtout ça, en fait. Je fais beaucoup de simulateurs de fouilles.
Alors, il est comment, le tien, le simulateur de fouilles que tu as?
J'en ai différents.
Ah bah, vas-y.
J'en ai fait un pour un site mégalithique où j'ai reconstitué le sol du dolmen.
D'accord.
Du site, en fait.
J'ai reconstitué. À l'intérieur, quoi.
C'est ça. J'ai vraiment refait toutes les dalles. J'ai tout mesuré. Et vraiment, donc, c'est un simulateur de fouilles néolithique, du coup, parce que c'est vraiment lié aussi.
Et donc là, dans ces cas-là, t'emmènes des groupes ou t'as des enfants, du grand public?
Alors
des
moi j'ai la commande où on me demande un simulateur pour une période, pour une structure.
D'accord.
Et après, je leur donne.
Voilà, le contenu, et ils se débrouillent après à gérer les publics pour faire visiter ces choses-là ou les faire découvrir.
Ouais.
Et toi, est-ce que t'as créé aussi peut-être des outils qui sont rattachés à ton entreprise je pense à, parce que Pierre-Laurent nous parlait de jeux de société qu'il peut faire, où il travaille autour de la maison à pans de bois, où il va fabriquer des trucs avec carton, et ça part dans tous les sens, avec les archéomomes. Donc je suppose que toi c'est pareil, il doit y avoir aussi des manips ou des choses comme ça.
Alors oui, mais en fait moi je marche sur commande, c'est-à-dire que tout ce que je fabrique et que je crée, je les laisse dans les structures. Et c'est-à-dire que je n'ai rien en mon nom, dans les entreprises, juste mon savoir-faire.
Tu vends ton savoir-faire, justement, ton expérience.
C'est ça, ouais.
Et en termes de... Alors justement, en termes d'expérience comme ça et de création, est-ce que c'est compliqué? Parce que Moi, je vois avec mes étudiants qui se posent des questions sur leur avenir, et on le sait bien que dans nos métiers, c'est pas évident, ce que tu disais, c'est beaucoup de vacations, ou, voilà, on cherche. Et donc, de créer son entreprise comme ça, de gérer, c'est quoi ton quotidien, la journée type de Julie
Répondre aux mails. Vraiment regarder, faire beau, enfin, regarder le réseau, en fait, vraiment créer son réseau et faire beaucoup de veille aussi sur ce que les autres micro-entreprises peuvent faire ou les autres structures peuvent faire. Et il y a du démarchage aussi, il y a la com, en fait il faut tout faire, il y a la comptabilité. C'est donc vraiment tous les jours, il y a beaucoup, beaucoup de travail sur l'ordinateur. Et après, quand on a une commande, là, je travaille vraiment donc avec des outils, avec voilà, ma perceuse, ma scie, enfin voilà, je...
T'as le volet recherche et le volet fabrication, et le volet com qui vient l'emporter, enfin, ouais. Puis administratif.
Et tout l'administratif,
tout ce qui est facturation, devis...
On fait tout de A à Z, en fait. Quand on a une micro-entreprise, il faut savoir qu'on fait absolument tout. Il faut avoir plusieurs casquettes.
C'est donc, ça. Comme tu sortais d'un doctorat qui n'était pas du tout dans ce domaine-là, comment ça marche? Est-ce que tu t'es formée à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as suivi ou est-ce que t'as... Comment ça marche?
Alors, en fait, comme c'est du tertiaire, la médiation en archéologie ou la médiation du patrimoine, je n'étais pas rattachée à la chambre de commerce, donc je n'avais pas le droit aux formations. Donc, bah, ça a été sur le tas, en fait. On apprend à faire les choses comme ça. Donc voilà, après, quand j'étais en Australie, il faut savoir que j'étais aussi, j'avais ma propre entreprise.
Déjà comme, en Australie, quoi.
C'est ça, comme j'ai, mais là en archéologie, par contre, vraiment archéologie de terrain. Ouais. Donc j'avais déjà en fait quelques notions de comptabilité, de trouver mon réseau, des marchés, les entreprises. Donc j'avais déjà en fait appris sur le terrain en Australie, même si les lois sont complètement différentes et la législation est complètement différente, la manière de faire aussi. Mais voilà, j'avais un petit peu d'expérience quand même. Ouais,
tu avais tâté déjà ce mécanisme commercial et comment le mettre en route, quoi. Parce qu'après, quand on n'a pas du tout de formation dans ce domaine, enfin, c'est comment on fait, par exemple, ce que tu disais pour démarcher, donc tu cherches des traductions, des choses comme ça. Donc c'est via des agences, par où on passe quand on veut justement démarcher, trouver des contrats.
Alors c'est beaucoup de bouche à oreille en fait. Vraiment, c'est le réseau qui est à la base de tout. C'est-à-dire qu'il faut énormément communiquer avec les gens qu'on connaît. Et même les personnes qu'on ne connaît pas, il ne faut pas hésiter à leur envoyer un petit mail ou passer un coup de fil. Et voilà, se faire connaître, poser des questions, dire voilà, moi je sais faire ci, ça, est-ce que ça vous intéresse?
Et tu n'as pas forcément des applications d'appels d'offres sur lesquelles tu peux t'appuyer aussi ou un appel via des services patrimoine ou des choses comme ça?
Si, si, il y a un site pour qui regroupe tous les appels d'offres, mais là, je ne l'ai pas en tête, désolée. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un site qui regroupe tous les appels d'offres et je vais assez régulièrement sur ce site. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites avec ma micro-entreprise, de commandes que j'ai eues via le bouche à oreille et via mon réseau.
En continu, quoi. Ouais. Les unes après les autres. Et, comment après, toi, tu, suite à toutes ces expériences-là, comment tu perçois la médiation en archéologie? C'est quoi pour toi la médiation en archéologie?
Alors, vaste sujet.
C'est bizarre, c'est un peu ce qu'on me dit à chaque fois. Hein,
la médiation en archéologie, pour moi, le médiateur sert à vulgariser en fait, les données scientifiques pour les amener vers le public. Alors, je sais que vulgariser, c'est un gros mot en France. Mais ça ne veut pas dire que quand on vulgarise, on enlève en fait les faits ou les données scientifiques. Ça veut dire qu'on les simplifie pour que le grand public puisse les comprendre. Donc vraiment, c'est ça, moi, le médiateur est entre les scientifiques et le public.
Oui, on est bien d'accord. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi je vois aussi avec le recul l'expérience que je peux avoir, on s'aperçoit qu'il y a quand même ce qui était vraiment le médiateur d'un côté et l'archéologue de l'autre. De plus en plus, les deux, on commence à se rejoindre. C'est-à-dire que le côté scientifique, qui ne voulait pas entendre parler de ce fameux médiateur qui vulgarise, s'entend pour lui aussi se dire « Mais en fait, peut-être que moi, en tant qu'archéologue, je suis aussi médiateur, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. » Et qu'il y a une sorte de passation, en termes de contenu, quoi, qui se fasse. Est-ce que toi, tu as des archéologues avec qui tu as pu travailler sur le terrain comme ça, avec qui tu as eu des ententes et où la machine prend, j'ai envie de dire, en termes de contenu et où ils sont prêts à échanger des savoirs comme ça?
Alors, ils sont prêts à échanger des savoirs, mais après, c'est plus la manière dont on le fait. Parce que vraiment, le métier de médiateur, que ce soit en archéologie ou du patrimoine, c'est un vrai métier à part du métier d'archéologue. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas médiateur en archéologie, il faut être formé.
Tout comme inversement, on va pas
s'improviser. On s'improvise archéologue, exactement. Voilà, ouais. C'est pas parce qu'on est archéologue qu'on est forcément à l'aise devant le public, qu'on a forcément les clés pédagogiques. Ah, ouais. Pour transmettre son savoir, et c'est pas parce qu'on est médiateur en archéologie qu'on va pouvoir aller fouiller de manière scientifique un site. Donc vraiment, ce sont deux métiers différents, mais on peut être formé aux deux métiers. Ça, c'est antinomique.
Encore plus aujourd'hui, puisqu'on a, très souvent, c'est ce qu'on dit, quoi. On fait plus un métier pendant 40 ans qui est le même, et on a la possibilité, comme tu disais, de pouvoir se former, d'avoir des... Quand t'es salarié, tu peux avoir aussi des prises en charge avec ton compte personnel de formation, et choisir d'avoir des formations prises en charge.
Oui.
Bon, parfois. Parfois, on a le droit. Donc, qui viennent compléter ça, quoi. Et toi, si tu avais donné un conseil, je parlais de mes étudiants, enfin, je dis à chaque fois les miens, c'est pas les miens, hein, c'est les étudiants aux qui j'enseigne, ou qui j'essaie de transmettre, justement, ce métier ou ces connaissances-là. Et si tu avais un conseil à donner, et puis même, je dis des étudiants, mais ça peut être des gens qui aimeraient, en tout cas, qui sont passionnés par ça, puis qui aimeraient se mettre à leur compte, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, comment ils pourraient faire, quoi, enfin, qu'est-ce qui est...
Bah, déjà, se former. Alors, pas forcément faire de longues études, parce qu'on pense tout de suite Master 2, pas forcément, parce que, par exemple, moi, en médiation en archéologie, j'ai fait une semaine de formation avec Archéomédia à Paris, enfin, dans la région parisienne, et après, voilà, je me suis vraiment auto-formée et aussi co-formée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à poser des questions à ses collègues, et il faut écouter ce qu'ils ont à dire, et même nous, on peut leur apporter des choses, donc il faut vraiment être dans la co-formation.
Mais ce que tu disais, il y a une espèce de réseau qui se met en place, et tu n'as pas hésité à avoir des personnes ressources comme ça à qui on va s'adresser pour récupérer de l'info, quoi. Et hormis la formation, qu'est-ce qu'on aurait d'autre
à... Ben, vraiment créer son réseau, agrandir son réseau, et se renseigner sur ce qui se passe dans les régions, en fait, parce qu'il y a certaines régions où il y a forcément plus de postes et plus de possibilités en médiation que dans d'autres. Donc vraiment bien se renseigner sur le marché du travail.
Le territoire aussi, d'être bien attaché. Et oui, d'ailleurs, toi, tu es arrivé en Bretagne, au final, je n'ai pas posé cette question-là, mais comment c'est arrivé cette affaire-là?
Alors, je suis en Bretagne depuis 2015. À la base, moi, je viens d'Amiens, en Picardie. Mais j'ai de la famille, en fait, bretonne, mais du Finistère. Et donc, j'ai toujours venu en Bretagne, et c'est une région que je connaissais très, très bien. Et où j'avais envie de vivre. Et c'est vrai que en 2014, quand je suis revenue en France, j'ai travaillé dans pas mal de musées dans toute la France. D'ailleurs, j'ai été dans les Alpes, j'étais à Paris, j'étais dans le centre de la France, j'étais dans le nord de la France. Et je suis arrivée en Bretagne, ça m'a plu et je suis restée.
Et voilà. Donc, c'est là que je pose mes valises, quoi.
C'est ça.
D'accord. Donc c'est vraiment ton choix d'être venue aussi sur... Et alors, comme t'es multilingue, est-ce que tu t'es mise un peu au breton?
Alors, je connais quelques mots, mais je suis incapable.
Tu n'as pas été tentée d'apprendre le breton aussi pour être aussi sur ce.
Non, parce que c'est une langue compliquée. Je pense que j'ai pas eu le temps en plus, j'ai pas eu le temps non plus.
De poser suffisamment pour te mettre à cette langue-là. Si
mais après, c'est vrai que je connais quelques mots parce que de toute façon, quand on fait de la médiation, on a toujours des questions des visiteurs qui nous demandent qu'est-ce que ça veut dire ça en breton.
Oui, et puis même en archéologie, c'est vrai que la toponymie, elle nous sert pas mal aussi pour visualiser, savoir où sont tel ou tel site. On l'utilise régulièrement.
Oui, oui.
Donc, la Bretagne, c'est ton choix. Donc, tu restes en Bretagne maintenant, mis à part peut-être l'Australie pour la retraite, alors.
Oui. Faut que j'économise, hein, parce que c'est un peu plus cher la vie là-bas. Oui, pour le moment, moi, je suis bien en Bretagne. Après, ça ne veut pas dire si je n'ai pas une opportunité où on m'offre un poste merveilleux, le poste dont je rêve depuis toute ma vie, dans une autre région de France.
C'est quoi le poste dont tu rêves depuis toute ta vie?
Alors moi, vraiment, j'adorerais créer un musée, en fait, mais vraiment un musée de préhistoire, mais pas local. C'est-à-dire faire un musée de préhistoire qui soit vraiment international. Et j'ai des idées en tête, mais après, voilà, il faut les moyens, il faut les collections. Donc, c'est compliqué.
On peut peut-être te prêter les collections de salles de Pinmar qui sont départementales du fond pour commencer. Ça peut peut-être un démarrage.
Après, il faut que je trouve un terrain. Voilà. Il faut que je fasse des demandes de subventions.
Ça va être un peu...
Mais c'est vrai que, voilà, même un centre d'interprétation, enfin voilà, créer vraiment quelque chose...
De toute pièce, le créer de A à Z.
Oui, c'est ça. Parce que vraiment, en fait, ce qui me plaisait au départ aussi dans la médiation, c'était le contact avec le public. Ça me plaît toujours. Mais au fur et à mesure du temps, de l'expérience, voilà, je me penche beaucoup plus vers la conception maintenant. C'est ce qui me plaît de plus en plus.
Bon. Et alors, si on veut découvrir Julie, est-ce que tu as un site internet par où on peut. Il y a une entrée sur les réseaux sociaux aussi, peut-être.
Alors, je n'ai pas de site internet. Il faut que je le fasse. Ça fait 4 ans que je dis qu'il faut que je le fasse. Je ne l'ai pas encore fait. Mais par contre, j'ai un compte professionnel sur Twitter. J'ai un compte aussi Instagram qui est à moitié professionnel, à moitié personnel.
Et qui a ton nom ?
C'est mon nom, en fait. Julie Brozniowski. Ouais, voilà. Alors, pas forcément Julie, mais en tout cas, si vous tapez Brozniowski. Il y a, faut peut-être que je l'appelle ou...
Je le remettrai de toute façon avec l'article. Ouais.
Donc en tapant mon nom de famille, on me retrouve assez facilement. Je suis sur YouTube aussi, mais là j'ai pas fait grand chose sur YouTube. Mais voilà, et puis je suis sur Facebook, mais là c'est personnel. Donc si vous voulez être amis avec moi, allons-y.
C'est ça, tous amis avec Julie pour découvrir la médiation en archéologie, ça marche. Ben, merci beaucoup Julie de nous avoir reçus. Donc on était dans cette petite salle, on va aller visiter un peu, faire le tour des remparts. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt donc, dans Trouver les sacs à dos. Alors nous c'est le mercredi sur Radio Évasion à 10h. Vous nous retrouvez aussi le dimanche, en début d'après-midi à 14h. Et puis, je continue, comme je le dis à chaque fois, je prends mon petit sac. Je ne vous en dis pas plus, je fais le teasing. Voilà. Merci Julie.
Merci.
Comme je le disais en début d'interview, j'ai rejoint Julie sur Vannes, où elle nous a donné rendez-vous dans la Tour du Connétable, lieu incontournable de la ville et dont elle nous a ouvert les portes spécialement pour Truelle et sacs à dos. Des visites guidées, les interdits des fortifications sont proposés pour mai et juin à venir. N'hésitez pas à réserver en ligne sur le site de Golfe du Morbihan Van Tourisme. Avec son parcours et ses expériences en Nouvelle-Zélande et en Australie, Julie m'a donné envie d'évoquer avec vous le bout du monde, et en particulier une île à la pointe de l'Europe, où durant 30 ans, une équipe de chercheurs a fouillé méthodiquement et sans relâche. Je parle bien sûr de l'île d'Ouessant. Un nouvel ouvrage vient de sortir pour compléter les deux énormes volumes si riches d'informations des années 2000 que mon libraire de la librairie Passage à Brasparts m'a justement prêté dernièrement. Aux origines d'Ouessant, une aventure archéologique par Jean-Paul Le Bihan et Jean-François Villard aux éditions Géorama. Et entre deux lectures, vous pouvez toujours écouter Truelle et sacs à dos. À bientôt.